Papa.
Oui.
Tu veux bien le mettre?
Mettre quoi?
Mettre papa. Je veux que tu le mettes. Papa. Le papa.
Pourquoi?
Papa.
Qu'est-ce que c'est, papa?
Rock psychédélique à l'usage de mon fils. Une émission présentée par Will Z. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service général de l'audiovisuel et des médias, fonds d'aide à la création radiophonique.
Récemment, je me suis demandé quel est le pourcent de personnes dans le monde qui écoutent encore du rock psychédélique aujourd'hui. Pas évident à établir. Aucun organisme vraiment sérieux de statistiques n'oserait récolter des chiffres sur le sujet. Par contre, des études, il en existe. Si je reprends la liste des disques les plus vendus dans le monde, j'y trouve 7 artistes étiquetés rock. AC/DC, les Eagles, Pink Floyd, Meat Loaf, les Beatles, Led Zeppelin, et Fleetwood Mac. Parmi eux, donc, deux groupes fondateurs du genre psychédélique, les Beatles et Pink Floyd. Et deux groupes présentant des influences psychédéliques, Fleetwood Mac, avec Peter Green en tout cas, et Led Zeppelin. Seulement voilà, ce classement présente quasi exclusivement des albums classiques, vestiges d'un âge d'or où l'on achetait du support physique sous plusieurs formats, vinyle, cassette et CD. Or, si je recoupe avec d'autres chiffres, seulement 17% de la population mondiale écoute encore des supports physiques sur une bonne vieille chaîne Hi-Fi. Les 83% restants écoutent majoritairement de la musique sur un téléphone portable, un ordinateur, et loin derrière, en voie de disparition, une tablette et un baladeur MP3. Pour avoir une idée plus précise de ce qui est encore écouté aujourd'hui, je dois abandonner, à contre-cœur, les supports physiques, minoritaires et ringardisés, et consulter les chiffres du streaming, la musique écoutée sur Internet.
Les artistes les plus streamés du moment sont Ed Sheeran,
Pop,
moi j'aime pas. Pop.
Drake.
Hip-hop.
Non, j'aime pas. Papa.
Attends, troisième extrait.
The Weeknd.
Hip-hop.
J'aime pas.
Et ça?
Daft Punk. Punk.
Electro.
Non. Je veux pas.
Kendrick Lamar.
Mais je...
Hip-hop.
D'accord.
Justin Bieber.
Pop.
J'espère que non, mais ça va peut-être bien.
Non.
J'aime bien Justin Bieber.
Non. Pop.
Rihanna.
R&B.
Mais lui, il t'en fout pas, ne quitte pas la pièce.
Alors que le hip-hop n'apparaît pas dans la liste des disques les plus vendus dans le monde, ce style musical est aujourd'hui le plus écouté. Les deux seuls groupes de guillemets rock, fermez les guillemets, dans le top des artistes streamés sont
Coldplay
et
Imagine Dragons.
Rien de très psyché là-dedans, hormis une envie furieuse de me droguer pour oublier ce classement déprimant. Il faut attendre la 48e place pour retrouver les Beatles, et encore, n'est pas vraiment le morceau le plus fou de leur discographie. Ce sont deux styles, liés à deux manières différentes d'écouter de la musique qui s'affrontent. D'un côté, le hip-hop, majoritairement consommé en ligne, 30% des streams contre 15% pour le rock. Aïe! D'un autre, le rock qui rassemble majoritairement un public plus âgé qui achète encore des disques avec 40% de ventes d'albums. Selon une troisième étude, 45% de la population mondiale écoute de la musique en regardant des vidéos sur Internet. Ouais. Le concept est super étrange, écouter en regardant. Mais c'est ainsi. Et s'il suffisait simplement de comparer des vues pour en tirer une proportion ? Si je prends la vidéo de Pink Floyd, qui a le nombre de vues le plus élevé, soit Learning to Fly. Ouais, je sais. Et la vidéo de notre grand gagnant du stream, Ed Sheeran, et sa belle tête de vainqueur, cela donne 57 millions pour Pink Floyd contre 2 milliards 230 millions pour Ed Sheeran. Même le projet de rock psyché le plus en vue, courtisé par Rihanna, j'ai nommé Tame Impala, fait pâle figure à côté avec 73 millions de vues. Allez, un rapide calcul malhonnête qui ferait sans aucun doute hurler tout statisticien et mathématicien qui se respecte. Si je reporte les chiffres de la vidéo la plus vue du Floyd avec Syd Barrett sur l'entièreté de l'humanité, j'en déduis que plus ou moins une personne sur 5000 écoute du rock psychédélique aujourd'hui. Rien ne nous dit si c'est voulu ou non par contre. En appliquant ces chiffres en Belgique, on est donc un peu plus de 2000 ici à écouter ce genre. Je retire 56% de néerlandophones, 1,5% de germanophones. Je souhaite donc la bienvenue aux 850 auditeurs de cette émission. Attention, je revérifierai dans les statistiques s'il n'en manque pas un à l'appel.
Ton orchestre, qu'il est chouette! Qui c'est qui a dit qu'on peut pas imiter les Anglais? Oh, dis donc, tu balances drôlement pour ton âme. En somme, y'a qu'avec les oreilles que tu fais rien.
Disque 3, face A. Wake up, baby.
Qu'est-ce qu'il y a, Louise ? Qu'est-ce qui se passe ?
Je veux que tu me mettes.
Mais quoi ?
Papa.
Mettre quoi ?
Le papa.
Après, Louis, je suis en émission, là. Reprenons. Comment faire pour lutter contre ces chiffres, implacables, quand on est un groupe de rock en Belgique francophone ? Il y a quelques années, j'avais été contacté pour apparaître sur une compilation de rock psychédélique belge. PUG, Psychedelic Underground Generation. Pour débusquer les invités de cette émission, je me suis de nouveau penché sur ces compilations. Et pourtant, la dernière compile de Psychedelic Underground Generation reprenait un groupe anglais, deux canadiens, un italien, deux australiens, un brésilien, un allemand, un grec, deux français, un suisse et deux américains. Pour trouver un groupe belge, il fallait remonter au volume précédent, le numéro 36, avec The Unforeseen. Et par une incroyable coïncidence, dans ce monde musical belge où tout le monde se connaît, ou presque, il s'est avéré que mon pote Pitou faisait partie du groupe The Unforeseen. Ajoutons à cela que le groupe répète où je réalise tous mes enregistrements, au Studio 5, il n'en fallait pas plus pour que j'aie envie de les rencontrer. Ils m'ont donné rendez-vous dans un parking souterrain, un garage, en fait le parking du studio, qui est aussi le fumoir du local répète. Un endroit surréaliste pour réaliser cette interview, et qui colle si bien au concept de cette émission.
C'est comme si on venait de se rencontrer, donc on... Ah, ben, voilà.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. The Unforeseen, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on fait un petit tour d'horizon pour quand même préciser qui sont les membres du groupe ?
Pitou, guitare. Hakim, guitare, voix.
Et Olivier, basse.
Ah, vous faites clairement du noise. C'est un bon point de départ, ça.
Je crois que c'est un bon point de
départ. Ok. Pourtant, vous apparaissez sur le volume numéro 36 de la compilation belge Psychedelic Underground Generation, référencé comme un groupe de rock psychédélique. Alors pourquoi ? Alors que vous ne vous reconnaissez finalement pas vraiment dans le genre.
La musique psyché, c'est une question de couleur. Et ouais. Donc, dans la couleur de The Unforeseen, effectivement, il y a du psyché. En plus du noise.
Ouais, c'est okay. Un peu une étiquette qu'on nous a accolée.
Toi, tu n'étais pas d'accord avec ça. Hein. Tu m'as dit non, moi je vois pas pourquoi on fait du psyché.
Ouais, mais c'est comme je t'ai dit l'autre jour. On fait sans le savoir, quoi. Voilà, oui.
On s'est pas dit au départ on va faire du psyché. Voilà.
Voilà.
On Et on fait notre musique et puis après, ben, les gens mettront l'étiquette qu'ils veulent sur ce qu'on fait. Et c'est vrai que quand on me demande quel genre de musique vous faites avec le groupe, c'est vrai que c'est toujours difficile de répondre à la question.
Voilà, quand la belle-sœur de Pitou, par exemple, te demande ce que vous faites comme musique.
Oui, mais là, ça se limite à pop,
oui.
techno,
Julien Clerc.
Bonjour, bienvenue sur Radio Rectangle.
Je crois que ça va être l'heure de la pause. Merci.
On va éviter de se faire écraser. Voilà.
Comme nous sommes dans un garage, forcément, on nécessite quelques petites manœuvres.
Voilà. Oh, je suis déçu, il n'y a pas eu le petit coup de klaxon. Je suis un peu déçu. Alors vous êtes fan du label Fuzz Club, par exemple, j'ai cru entendre dire. Donc c'est un label qui se définit comme psychédélique, shoegaze, noise, garage et expérimental. Alors est-ce que finalement certains publics, labels et organisateurs de concerts, de festivals se retrouvent un peu dans tous les genres et que par conséquent l'étiquette psychédélique qui reste la plus parlante, la plus connue est collée à tous ces styles et que ça crée la confusion?
En fait je crois que psyché ça brasse tellement de choses à la fois qu'effectivement il y a moyen de se retrouver, beaucoup de groupes peuvent se retrouver dans le psyché. C'est à la fois fédérateur et à la fois le danger de tomber dans le piège de l'étiquette qui simplifie un petit peu trop les choses.
Donc c'est un peu le hic, c'est que si on vous programme par exemple avec un groupe purement psyché, les publics risquent peut-être d'être... Bonjour.
Voilà le reste du groupe.
Hello.
Là, au moins, ça fait vrai, tu vois. Alors. Là, c'est vrai, tu vois, ça fait vraiment.
Salut.
Voilà. Il n'y a pas de problème.
Donc, votre avis ?
Donc, oui.
Vous êtes d'accord ?
Vous êtes d'accord ? Tout ce qui vient d'être dit. Si on prend deux groupes, voilà, un groupe par exemple shoegaze, un groupe psyché qu'on les met ensemble dans un même festival, il y a forcément deux groupes qui seraient une erreur de programmation. En général, c'est mon groupe qui est une erreur de programmation, mais.
C'est là le danger, voilà, justement. Ouais. C'est là où je parlais de danger, c'est qu'effectivement, par principe même, la musique est un brassage d'idées diverses.
Moi, ouais, le psyché, maintenant, si tu mets une reverb étiquetée psyché, quoi,
ouais.
Que finalement, ça n'a rien à voir.
Exact. Mais c'est pas un effet qui va définir le genre, quoi.
Non, non. Mais pour dans la tête de certains, c'est ça, quoi. Mm-hmm. Ton dernier album, il est plus proche de Black Sabbath que de... du Grateful Dead ou un truc comme ça.
Ouais, il y a une déprogrammation de drum machine dessus. Donc.
Ouais, c'est ça.
Donc, j'ai l'impression que si on prend un autre style engendré par le rock, comme le metal, les étiquettes sont plus claires. Donc quelqu'un qui voit sur une affiche, par exemple, black metal, qui n'écoute que du death metal, bah, il ne va pas y aller.
Non, t'as raison. Mais le métal tourne en rond depuis 40 ans.
Quels sont les groupes qui vous ont donné envie de faire du noise?
Ah, Sonic Youth. Ouais, déjà, faut commencer. Ouais. My Bloody Valentine. Mm-hmm. Nirvana, quoi. Et à l'époque, t'es fan pour mon adolescence, comme ça,
ouais.
Ça a été quand même une révélation pour beaucoup.
t'es pas d'accord. Que adolescent, toi.
T'es pas d'accord. Tu peux exprimer ton avis, hein.
Non, Nirvana, c'était très bien, quoi, je veux dire. Voilà.
T'étais Guns N' Roses, ça a l'air vous.
Ah non, non, vraiment pas.
Vous avez tous joué dans des groupes avant celui-ci, j'imagine. Est-ce que c'est possible de garder encore de la fraîcheur, de la naïveté quand on a fait des groupes comme ça pendant
Oui.
Après tant d'années, on a toujours envie de s'exprimer et que c'est toujours aussi amusant et fun.
Ouais. C'est ça. Alors, quelle est votre vision de la vie sur les routes des concerts, les tournées, voilà. Est-ce que vous rêvez de ça? Est-ce que...
Toujours cette part de rêve.
Ouais.
D'aventure, de partir sur les routes et de jouer du jour au lendemain dans un endroit puis dans l'autre et puis de faire un petit bout de voyage comme ça. Mais il y a la réalité du terrain qui fait qu'effectivement c'est un fatigant et qu'on n'est plus si jeune que ça et que Et qu'effectivement, la vie de famille nous rappelle tôt ou tard ses obligations. La vie professionnelle aussi. Et... voilà. Mais c'est vrai que ça fait toujours partie du fantasme du musicien de pouvoir s'exprimer en dehors de son fief.
Bah, surtout que ce style musical n'est pas très reconnu alors, au sein de son fief.
Voilà. Qui plus est, voilà.
On fait souvent de la musique, de l'art en général, parce qu'on souffre d'un manque de reconnaissance. Mais est-ce que cette idée reste vraie quand on choisit un genre musical, comme le vôtre ou le mien, qui est suivi par une minorité?
Oh, c'est surtout une manière de s'exprimer, je crois.
Non, il y a toujours cette envie d'exprimer les choses à sa façon.
Ouais.
Parce que si on voulait toucher un plus large public, on se donnerait la peine de faire quelque chose de plus, plus accessible. Non.
C'est chiant, c'est DJ, quoi.
L'idée, c'est plus de créer.
Oui, c'est ça.
C'est de.
Ouais. J'adore
plus ça avance, moi je me rends compte que c'est vraiment ça qu'on recherche. Mm-hmm. C'était resté dans la création.
Ouais. Attendez. Vous vous souvenez l'émission numéro 2? Bon, vous avez sans doute oublié. Je vous avais dit que je vous reparlerais de quelque chose. Rappelez-vous. Tiens, d'ailleurs, alors que j'étais au beau milieu de toutes ces rencontres d'artistes, de boss de label, de programmateurs, j'ai recroisé, quelques jours après son interview, un des intervenants de cette émission. Je l'ai recroisé au supermarché. On a échangé quelques phrases sur la musique, au rayon aux fruits et légumes. Ça n'envoie pas vraiment du rêve. Je vous rappellerai cette petite anecdote quand on arrivera à son interview dans une émission future. D'accord? Voilà, bah c'est lui, Olivier. Bon, on peut continuer.
Alors est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu élitiste? Un peu donneur de leçons, nous sommes une poignée à écouter ce style musical et nous ne nous abaisserons pas à écouter de la musique mainstream comme vous.
Non, moi je pense pas, parce que de la musique mainstream, moi j'en écoute, honnêtement. Ouais. Il faut aller vite faire cette parodie, point.
C'est ça, ouais.
Plus que d'essayer d'être original à tout prix, ouais.
J'ai un peu ce côté.
Élitiste, ouais. Toi, tu te reconnais là-dedans.
Oui, ouais.
Toi aussi
Moi non, moi pas du tout.
Non, pas du tout.
Je suis plutôt assez large à ce niveau-là, donc plutôt. Trop large même pour
certains. Élitiste.
Non, c'est parce que t'entends pas élitiste. Ouais. À partir du moment où t'écoutes ce que t'es un B, est-ce que t'es élitiste? Moi, je pense pas.
Ça, à mon avis, élitiste, c'est dans la façon de juger les autres.
C'est ça, ouais.
Ah oui, non, pas dans la façon de juger les autres, parce que c'est grisant pour moi, c'est de faire partie un peu, entre guillemets, d'une famille, d'une tribu, quoi, tu vois. Mm-hmm. De sortir devant des gens que tu connais, que t'apprécies, qui écoutent la même musique
pas,
que toi.
Oui, c'est ça,
avec qui tu veux partager des choses, quoi.
Ouais.
Autre chose que le samedi à chez Ikea, quoi, tu vois.
Toi, t'es élitiste.
clairement.
Il l'avait dit, hein. Moi, j'ai envie de découvrir des choses qui ne sont pas forcément faciles d'accès.
Ouais.
Et c'est propre à toute forme d'art, en fait.
Ouais, c'est un peu le côté recherche. Ouais.
Ouais.
Voilà, le mainstream est fait aussi par les médias aussi. Quoi.
C'est ça, ouais.
Si c'est plus c'est relayé, en gros, plus c'est mainstream. Ne pas fermer la porte systématiquement à un groupe parce que. Il commence à devenir populaire, entre guillemets.
Alors, que pensent vos proches de votre musique? Est-ce qu'ils comprennent?
Je suis pas sûr. j'ai plein d'amis qui viennent nous voir pour me faire plaisir et ça me met toujours mal à l'aise. Parce que je me dis.
Ceci dit, est-ce que vous avez vraiment envie que vos proches aient envie de savoir le fait de la musique? Moi, personnellement, ça, j'ai plus envie de qu'il n'ait absolument aucune influence par rapport à ça. C'est juste un terrain de jeu.
Bah, le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas. Qu'on fait. Oui, comment veux-tu expliquer? Oui, c'est ça. Je parle jamais de ce que je fais à mon entourage.
Tu n'en parles pas.
Collègues. Non, ça ne sert à rien.
Tu ne joues pas pour le cousin François ou.
Non, c'est ça. Je joue pour moi avant tout.
Parce qu'on a éduqué notre oreille au fil du temps à écouter des choses qui sont vraiment scabreuses parfois.
De maltraitance, tu veux dire.
Ouais. La dissonance, tout ça, ben voilà, nous, ça ne nous heurte pas. Mm-hmm. Si je prends l'exemple de ma compagne qui a certaines cultures musicales et qui plein de choses, je suis certain de la perte par moment quand j'écoute des trucs qui sont vraiment dissonants et qui sonnent vraiment bizarres, mais
et voilà. C'est vrai qu'il faut écouter Merzbo, hein, sa femme, c'est moins top.
Ça m'arrive de mettre un peu de musique dans la salle des bains au moment du bain, et pour peu que je me trompe, je vois sa tête qui change. J'avais oublié ça.
Et tu réveilles les enfants avec des grips.
Sauf que dans les faits, en général, c'est l'enfant qui réveille le parent.
Papa, mais papa, c'est l'heure de se réveiller.
Non.
Si.
Non.
C'est bien simple. Si Louis maîtrisait les technologies, je suis certain que c'est lui qui me réveillerait à coups de Death Grips.
Allez, coupe ça.
Mon petit papote.
Mon petit papote. C'est quoi ce papapote? Quelque chose d'autre à ajouter là?
On fait le tour, hein.
Bah merci alors.
C'est tout.
Merci à toi. Plaisir.
Papa, je viens le mettre. Papa. Tu vois, je connais pas tout le morceau, mais je connais un petit peu.
Qu'est-ce que c'est, pop-pop?
Strafwerk.
C'est quoi?
C'est Strafwerk.
Strafwerk, oui.
Strafwerk. Ok,
ça va.
C'est ça que leur nom que je chante. Cha-cha-cha.